Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Alors, Félix, tu as eu un petit scoop ce matin. Jean-François Guérin de LCN disait ça. Donc, tu as annoncé que la situation s'améliore dans les hôpitaux.
Oui, mais quand même, il faut faire preuve d'un optimisme assez prudent parce que oui, on a annoncé là que ça s'améliorait. Des sources nous ont confié là que on s'apprête à annoncer l'une des meilleures journées depuis le pic d'Omicron là pour la baisse des hospitalisations.
Ben,
c'est-à-dire, comme dirait l'autre, on prend ce qu'on a. Hein?
Ben,
alors, tu vois là, le bilan, je vais te donner les chiffres là. Il y a 346 personnes qui entrent dans les lits d'hospitalisation là pour le bilan d'aujourd'hui, mais il y en a 406 qui sortent. Donc là, ça baisse de 60 d'un coup. Et là, il y a 20 patients qui sortent aussi des soins intensifs pour un total de 265. Je n'ai pas encore le chiffre des décès. Mais là, on semble être en train de redescendre, si tu veux, là, de l'autre côté de cette pas colline, pas montagne, de
oui.
de ce sommet, quoi. haut comme l'Everest, là, du pic Omicron. Et puis, écoute, c'est fou, hein. J'aimerais te parler de quelque chose que tu vis au quotidien, mais m'épancher un peu à mon tour, et sur la réaction à ce tweet-là hier. Tu t'imagines pas? J'ai tweeté ça, je crois qu'il était autour de 18h30 hier soir.
Okay.
Tu imagines pas les réactions violente, de dégoût, agressive, diffamatoire, que ce tweet suscite à mon endroit. Je me fais traiter de vendu, je me fais traiter de pute, je me fais traiter de tous les noms, tout y passe, comprends-tu? Parce que, bien sûr, je suis à la solde d'un gouvernement dont la population est excédée des mesures sanitaires, avec raison probablement, sauf que moi, tu comprends que je suis la personne qui marche dans le grand ensemble pour faire en sorte de faire mieux paraître le gouvernement Legault. Je n'en reviens pas, ça me gaze, ça me dégoûte, ça me fait vomir des gens qui pensent.
Ces gens-là sont extrêmement agressifs. Là. T'sais, les messages qu'on reçoit, là, ça n'a aucun maudit bon sens. Moi, j'ai jamais reçu des messages aussi violents que ça. Je peux comprendre que les gens soient tannés, mais t'sais, en même temps, là, eux autres, ces gens-là, là, ils ont, comment je peux dire, on a apporté de l'eau dans leur moulin, là, parce que là, il y a un parti politique qui est allé chercher une candidate qui dit que la vaccination, c'est de la merde, c'est une grosse cochonnerie. Alors, les autres, ces gens-là disent, il y a un parti politique là, qui se présente, là, qui va peut-être siéger à l'Assemblée nationale, qui pense comme nous autres.
Mais pas que ça. Il y a une conjoncture mondiale aussi qui fait en sorte que, je pense qu'il croit avoir raison. C'est-à-dire que là, c'est facile de regarder les États-Unis, c'est facile de regarder Boris Johnson en Angleterre, c'est facile de regarder Macron en France et les autres, et l'ouverture quasi complète et l'absence de restrictions bientôt sanitaires dans certains pays. Parce que là, les intensivistes le disent, les épidémiologistes aussi, ce virus-là est différent. Et les autres n'ont pas le même système de santé que le nôtre, laissé à l'abandon, déplore-t-on, pendant de nombreuses années. Alors ça, si tu regardes l'extérieur, c'est facile aujourd'hui de te dire, ben voyez, on vous l'avait dit depuis le début, alors que les paramètres ont complètement changé. Alors encore une fois, tu comprends, c'est une forme de bullshit qu'on reprend pour se peinturer, tu sais, ou se dépeindre plutôt, je voulais utiliser dépeindre plutôt que peinturer, comme étant les gardiens de la vérité depuis le début de cette pandémie-là, alors qu'encore une fois, c'est faux, c'est du baratin, c'est de la merde. Je te jure, moi, je reçois des images depuis ce matin de gens qui se font guillotiner puis de gens qui se font pendre en disant « c'est ce qui t'attend ». Je suis renversé à chaque fois de voir à quel point les gens peuvent avoir des propos diffamatoires pour un gars qui fait sa job de journaliste, qui publie les chiffres qui vont sortir aujourd'hui puis qui a fait l'effort de les chercher avant qu'un autre les sorte.
Non, mais attends,
c'est des chiffres. Les mêmes chiffres vont sortir aujourd'hui. C'est comme si je les avais inventés, Richard, ces chiffres-là. C'est débile.
Mais ces gens-là ne croient plus les médias traditionnels, mais croient par contre tout ce qui circule sur Internet. Dès qu'ils ouvrent leur ordinateur, leur sens critique, hein, leur sens critique qu'ils ont vis-à-vis la télévision, la radio, les journaux, ils ouvrent leur ordi, tout à coup, leur sens critique disparaît et croit n'importe quoi qui est sur Internet. Incroyable.
Ben oui, c'est ça. Puis, et à l'inverse, ils remettent en doute n'importe quoi qui est écrit par des médias traditionnels ou des journalistes qui travaillent pour des médias traditionnels, puis des salles des nouvelles qui, depuis des décennies, là, ont fait leur marque dans le paysage médiatique où elles sont. C'est franchement,
c'est fou.
Je suis encore renversé et je m'excuse pour cette montée de lait, mais tu vois, je me dis que c'est aussi l'occasion de ventiler, Richard.
Mais tu sais, envoyer des photos de gens qui se font pendre en disant c'est ce qui t'attend, je suis désolé, mais c'est une menace de mort, là. Vraiment, si t'avais du temps devant toi, tu pourrais porter plainte, mais là, tu peux pas quand même porter plainte à chaque fois.
Tu serais au poste de police à tous les jours.
À tous les jours. Déjà que t'es là pour ta job.
C'est ça.
Tu disais, bon, on est tanné du confinement. Bon, là, il y a une pâtissière du Saguenay. Je comprends les commerçants qui sont écœurés, qui doivent fermer, puis ils disent, regarde, moi, je m'en fous, je vais ouvrir malgré tout. Mais reste que on peut pas chacun décider, bon, moi, la loi, ça me tente plus de la respecter, là.
Ben non, c'est ça. Moi aussi, comme toi, là, je comprends et je suis plein de compassion pour une femme qui a une très petite entreprise, là, une TPE, là, et qui voit ses revenus fondre, qui voit probablement ses placements fondre aussi, puis qui voit son salaire fondre si toutefois elle est capable de s'en payer un. Elle décide qu'elle va ouvrir. Alors, elle a fait la manchette toute la journée, hier jusqu'à la fin de la journée. Et elle dit qu'elle se conforme, c'est-à-dire qu'elle scanne le passeport sanitaire, passeport vaccinal plutôt, à l'entrée, puis elle respecte la distanciation, toutes les mesures sanitaires, lavage des mains, blabla. Moi, c'est justement de ça dont je voulais te parler. Moi, je trouve que c'est un cri du cœur, mais les cris du cœur, parfois, sont un peu maladroits parce que on entre, si je regarde la chose, et là, seulement d'une approche légaliste maintenant qu'on a parlé de toute la compassion qu'on avait pour cette femme-là. Bon, ben là, l'amende qu'elle risque de recevoir, c'est juste, elle peut aller jusqu'à 6 000 $, ses clients aussi, etc. Mais moi, ce que je trouve dommage pour elle dans ça, c'est qu'aux yeux de la loi, ça la placera, et si elle continue à ouvrir, comme une récidiviste. Et ça, c'est pas vrai que ça ne traîne pas dans ton dossier pendant des années. Alors, si d'aventure, madame rencontre des organismes réglementaires ou est devant un tribunal ou etc., je suis pas certain jusqu'à quel point ce comportement-là envers la loi n'irait pas jusqu'à la suivre. Avait une procédure au civil contre quelqu'un, je ne sais pas jusqu'à quel point ce genre de comportement-là de quelqu'un qui a dit, ben, ces règlements-là, il sera pas pour moi aujourd'hui, ça va la suivre. Je trouve ça très dangereux, bien que je compatisse énormément.
Non, mais c'est ça, c'est comme une montée de lait, là. Elle, c'est l'émotion qui a parlé, mais il va falloir à un moment donné qu'elle garde la tête froide puis qu'elle voit les impacts de sa décision.
Comme tu dis, ça
peut avoir des impacts, là, vraiment extrêmement importants. Pire que les consignes sanitaires actuellement.
C'est exactement ce que je te dis. Oui.
Écoute, on a parlé la semaine dernière, je suis allé un peu plus tôt que prévu, là, on a parlé de ton reportage qui était GIE ce soir sur ces filles qui veulent avoir un corps parfait puis qui s'en vont en Colombie subir des chirurgies. Écoute, j'ai vu les photos, là. La photo qui est sur la première page du Journal de Montréal, là, que la fille voulait avoir des fesses un peu plus bombées. Mais tabouère, là, c'est épouvantable. Moi, jamais, j'aurais le réflexe d'aller me faire opérer en Colombie.
Non, moi non plus, hein. Ben, c'est ça. C'est ce qu'on va diffuser à GIE ce soir. C'est des Québécoises qui ont eu ce réflexe-là, mais un réflexe qui est venu parce qu'on leur a proposé quand même là, de l'avoir. C'est-à-dire que c'est des Québécoises qui sont un peu là amenés vers la Colombie par des jeunes filles sur Twitter qui font la promotion d'un médecin là-bas, qui font la promotion du docteur Eduardo Luis Plazas, qui lui est un chirurgien esthétique. Il est à Cali et il accueille des patientes de l'étranger. Puis comment ça fonctionne tout ça? En fait, tu sais, son véhicule publicitaire, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Alors, qui a-t-il trouvé pour faire sa publicité au Québec? Deux jeunes femmes, Annie Mandeville, Lara Ross, donc deux Québécoises. Tu verras leurs photos là dans notre émission ce soir. Puis elles-mêmes, elles ont passé sous le bistouri mais là, elles entraînent d'autres personnes à passer sur le bistouri. Elles étaient satisfaites de leur opération, mais vous allez voir que pour d'autres, c'est pas du tout, du tout ça. Extrait de l'émission de ce soir.
C'est ici qu'Alexandra s'est réveillée de son opération. À la clinique de chirurgie esthétique Le Plastique, signée Dr. Luis Eduardo Plazas.
Je me suis réveillée dans une chambre, puis je pense que ce qui m'a réveillée, c'est le moniteur de signes vitaux. Puis j'avais tellement mal. Tous les emplacements qui avaient été ouverts n'avaient pas été refermés, donc ça coulait. Le sang, la lymphe, le liquide opératoire, ça coulait de partout. Puis j'avais pas de sonnette pour avertir personne. J'avais personne. J'avais beau crier, il y a personne qui venait. Je me suis mis à cogner tellement fort sur mes barreaux de lit d'hôpital juste pour avoir de l'aide parce que j'avais soif. J'étais déshydratée, j'avais mal. Je savais pas j'étais où. J'étais tellement mêlée. Puis on m'a juste donné un verre d'eau en me disant comme on va revenir plus tard.
Mais très beau. Félix, c'est un film d'horreur. Tu te réveilles là, puis t'as des plaies béantes, puis tout ça qui coule. Il y a personne qui est là. T'es tout seul sur ton lit. C'est un film d'horreur.
Mais non, puis écoute, il revient au Québec, puis on lui dit après ça, ben écoute, c'est pas réglé tes affaires. Faut que tu te présentes en CLSC à chaque deux jours pour faire changer tes pansements. Puis on ajoute. T'aurais pu mourir là-bas. Et, tu sais, bon, j'ajoute plein d'angles à tout ça, mais je reviens à l'angle principal qui, moi, dans le reportage de Marie-Lise Bormina ce soir, me fascine le plus. C'est justement cette image que nous renvoient les réseaux sociaux d'un standard parfait. Tu sais, ce que ces filles-là vont se faire faire là-bas, c'est soit des augmentations mammaires, oui, sculpter des abdos, là, que normalement on sculpte à force d'entraînement, puis de course, puis de santé physique, mais aussi c'est le fameux Brazilian butt lift. Tu sais, hein, ça, c'est quoi, on les voit sur les réseaux sociaux, ces fessiers, là, un peu disproportionnés, là, par rapport au corps, avec une rondeur et tout ça.
Comme Nicki Minaj, là, exactement.
Oui, exactement. Ce type de chirurgie fonctionne par la liposuction du gras ailleurs dans ton corps, puis par l'injection de ce même gras dans tes fesses. C'est une des opérations les plus dangereuses en chirurgie esthétique. Et toi, tu t'en vas la subir en Colombie où t'as aucun recours d'ailleurs.
Non, vraiment. Puis en plus, c'est des belles filles. Ils ont pas besoin de ça. C'est quoi, c'est la recherche du corps parfait? Acceptez-vous comme vous êtes. Et je dis souvent ça, Félix. Le gars le plus moche se regarde dans le miroir puis dit « Yeah! » Je suis beau. Puis la fille la plus belle, c'est quand elle est miroir, puis elle dit « Ah, mon Dieu, je suis laide. » Je comprends pas ça, pourquoi des belles filles comme ça. Tu sais, on est maintenant dans un mouvement de diversité corporelle, là, puis les magazines de mode essaient de faire leur effort en disant « On va accepter tous les formats, puis toutes les sortes de corps. » Il y a encore des filles qui rêvent du corps parfait.
Ben oui, mais en même temps, si tu passes ton temps, exemple, sur Instagram, aller regarder des influenceuses ou micro-influenceuses dont le seul contenu à publier est essentiellement l'image de leur corps qu'elles ont elles-mêmes sculpté, ben tu vis dans une bulle où ça c'est la normalité. Tu sais, je l'éditorial ici, mais je pense qu'il y a de ça là-dedans, là.
Non, c'est vraiment un drame d'horreur. Très hâte de voir ça ce soir. Et une autre histoire qui attire mon attention, cette avocate soupçonnée de meurtre.
Hey, je te dis que si ça attire ton attention, imagine comment ça attire mon attention, le mien. Alors, Jonathan Tremblay, notre excellent Jonathan Tremblay au Journal de Montréal, qui publie ce texte-là sur maintenant Noémie Tellier, qui est une jeune avocate, mais qui est dans la mire de la Sûreté du Québec dans le cadre d'une enquête sur le meurtre d'un trafiquant de drogue abattu sur la Rive-Nord il y a 3 ans, le meurtre de Francis Turgeon, tué le 8 mai 2019 à Repentigny. Selon, il y a des documents qui ont été déposés au tribunal, il semble que les enquêteurs croient que maintenant Noémie Tellier aurait été complice après le fait, parce que un des principaux suspects dans cette affaire-là, qui s'appelle Kevin Saint-Pierre, ben c'est l'ex-conjoint de cette avocate en question. Et le soir du meurtre, les policiers croient qu'elle s'est rendue au domicile de Turgeon avec une autre personne dans la voiture qui appartient à cette avocate-là. Dans les jours qui suivent, elle est sous filature, elle fait des manœuvres de contre-filature, toujours selon ce qui a été soumis au tribunal, notamment demi-tour dans une sortie d'autoroute Wow. Et là, elle abandonne un deuxième véhicule qu'elle a, selon les mêmes prétentions, un Land Rover gris, dans un stationnement commercial à Blainville. Et là, les enquêteurs disent, ben voyons, ça c'est une technique pour laisser, comme on dit en guillemets, refroidir des véhicules suspects. Et là, ils tentent de demander, en fait, beaucoup de mandats pour avoir accès au Bluetooth de la voiture, au message texte. Pas sûr que ça fonctionne, tout ça. Et c'est un règlement de compte qui était signé, qui portait la marque des Hells Angels. Alors, moi, là, sais-tu quoi? Jonathan Tremblay m'a vraiment accroché avec cet article-là et m'a donné l'idée de suivre ça de très près au cours des prochaines semaines.
Écoute, encore des fusillades à Montréal. On a vu un homme de 54 ans qui a été tiré dessus. Il y a eu aussi des fusillades à Ville-Mont-Royal. Écoute, c'est pas la première Ville-Mont-Royal. Tu sais, veux dire, s'il y a un endroit là, qui est tranquille, c'est un cimetière à Ville-Mont-Royal. Il se passe rien, là. Non, mais j'ai vécu là. Je m'ennuyais pour mourir. Il se passe rien. À 7 heures, ils roulent des trottoirs, il n'y a plus personne dans les rues, tout ça. Là, tu dis, même à Ville-Mont-Royal, ça se tire dessus.
Ben non, mais il y a quasiment des clôtures autour de tu sais, je veux dire, il y a quasiment des palissades autour de Ville-Mont-Royal. C'est quasiment fortifié, cette ville-là.
Ben oui.
Puis quand tu es rendu dans le royaume, effectivement, il y a pas grand-chose qui se passe.
Il se passe rien là-bas. Mais là, ça a l'air que ça se tire dessus. Là. C'est Montréal, ça devient rock'n'roll. Bon week-end, bien mérité. Tire la plug, puis on se parle lundi, Charles-Félix.
All right, à lundi.
Salut, bye. Bye.